Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.
Merci de suivre cet autre numéro d'Economia qui poursuivra sa présentation sur le rôle d'un expert en intelligence économique. Il est toujours avec nous, M. Faustin Onozon, pour parler de cette spécialité. Nous le retrouverons dans quelques minutes, le temps de revenir sur des explications de certains termes que vous entendrez dans cette émission. Vous aurez aussi dans la rubrique les tendances de la bourse une idée des principaux projets de la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières, en cette année 2023. Nous retrouverons vers la fin de ce numéro le directeur général de cette bourse des valeurs. Et donc aussi à mon nouvel, c'est de lui qu'il s'agit, nous déclinera ses priorités pour 2023. Merci de votre attention et bienvenue à tous.
Le lexique économique. Le lexique économique.
L'intelligence économique.
L'intelligence économique, c'est l'ensemble des actions coordonnées de recherche, de traitement et de distribution en vue de son exploitation, de l'information utile aux acteurs économiques. L'intelligence économique permet surtout aux entreprises d'effectuer des actions d'influence telles que le lobbying. Elle sert surtout à protéger l'entreprise contre tous les risques et les menaces liées à la sécurité, à la sûreté, à l'environnement et au management. L'intelligence économique, faut le savoir, s'appuie sur trois piliers, à savoir la veille, la sécurité ou protection de l'information et l'influence.
La veille.
En matière d'intelligence économique, la veille consiste à acquérir l'information stratégique pertinente afin de la maîtriser et de l'utiliser. L'objectif étant d'obtenir des informations essentielles sur ses concurrents, mais aussi comprendre les règles du marché sur lequel l'entreprise entend se développer.
La protection des données.
Protéger ces informations pour une entreprise est fondamental, notamment à l'heure où le savoir-faire et l'innovation peuvent se révéler déterminants en matière de compétitivité. La protection des informations essentielles assurera ensuite la pérennité de l'entreprise elle-même.
L'influence.
L'influence a pour objectif de diffuser au sein de l'entreprise à tous les membres de l'entreprise la politique de sécurité adoptée sur les informations que l'entreprise détient. Pour influencer, d'abord, il s'agit désormais de diffuser de façon persuasive des informations choisies par l'entreprise auprès de tous les autres acteurs du marché.
Regard sur la gestion économique nationale.
Avec toujours Faustin Onozon, notre expert des questions économiques et en intelligence économique. L'intelligence économique, on en parle justement avec lui la semaine passée, où on a expliqué l'importance justement dans le choix stratégique pour tout dirigeant. Ça peut être un dirigeant d'une entreprise, d'un pays ou bien sûr d'une structure. Et il a parlé justement de cet aspect stratégique de cette science-là. Monsieur Faustin Onozon, bonjour.
Bonjour.
On rappelle, bien sûr, pour commencer, le concept d'intelligence économique, c'est quoi pour ceux qui ne nous ont pas suivis?
Alors, d'une manière simple, comme la dernière fois, et l'intelligence économique est un ensemble d'actions axées sur la collecte. La collecte, c'est la veille, l'analyse, le traitement et la diffusion de l'information économique et financière à des fins de prise de décisions stratégiques ou d'anticipation.
En tout cas, il est important justement d'avoir des experts à ses côtés pour atteindre des objectifs, et il en est un. Alors, vous parliez la semaine passée de dispositifs que vous aidez à mettre en place. Alors, on va faire un cas école. La Côte d'Ivoire, locomotive de la sous-région au niveau UEMOA, qui veut aujourd'hui, en termes de perspective, avancer encore sur le chemin du développement. Vous espérez justement en intelligence économique, quels sont les éléments sur lesquels vous insistez?
Merci. Et le sujet, il est assez large quand même. Mais je le disais, l'intelligence économique, c'est surtout pour permettre à tout dirigeant d'exploiter au mieux, d'une manière utile, l'information économique et financière. Et dès lors où elle est exploitée d'une manière utile par tout le monde, en particulier par les acteurs économiques, c'est qu'on est en train d'atteindre nos objectifs. C'est aussi les objectifs d'un gouvernement, par exemple. Donc, toute personne, toute entreprise, tout gouvernement, tout pays, aujourd'hui, sans intelligence économique et financière, c'est un peu comme si, quelque part, permettez-moi le terme, on naviguait un peu à vue. Voilà. L'objectif, c'est d'avoir d'une manière instantanée toutes les informations qui concernent votre entreprise, votre organisation, ou qui concernent même votre pays. Mm-hmm. Quand je prends le cas d'un pays, par exemple, il y a un gouvernement, il y a des ministères. Mais comment peut-on avoir la possibilité d'être en même temps au courant d'une manière instantanée de tout ce qui se passe dans tous les départements ministériels? Mais ce n'est pas le biais de l'intelligence économique et financière. Mais si vous ne mettez pas sur pied un dispositif qui vous permet d'avoir toutes les informations concernant tous vos départements, il vous sera difficile de savoir d'une manière ou d'une autre ce qui se passe au niveau de votre pays, au niveau de votre corporation, au niveau de votre entreprise, ou de vous-même de votre gouvernement. Je vais un peu plus loin. Je prends par exemple un gouvernement. Vous avez des cabinets ministériels. Si vous êtes le responsable de ce gouvernement, vous n'allez pas appeler chaque ministre chaque jour pour lui demander « qu'est-ce qui se passe chez toi ?» Le dispositif va vous amener à entrer dans ce qu'il est en train de faire, dans ce qu'il est en train de développer, dans toutes ses actions. Voilà. Et dès lors que vous entrez dans toutes ses actions, vous pouvez, au besoin, lui demander s'il y a une action que vous ne comprenez pas, de vous expliquer davantage, ou bien de faire une analyse objective. Voilà un peu. Mm-hmm. Donc, au même moment, vous pouvez entrer en contact avec vos collaborateurs, avec 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 collaborateurs. Parce que là, ce que vous recherchez, ce sont des axes stratégiques, n'est-ce pas? Et puis, surtout les indicateurs de performance. Et dès lors, vous avez ces indicateurs de performance concernant tous vos départements ministériels, mais vous savez exactement où est-ce que vous allez. Voilà. Et le dispositif va vous amener à n'importe quel moment de la journée. Que vous soyez ici en Côte d'Ivoire, ou en dehors de la Côte d'Ivoire, d'avoir toutes les informations requises sur tout ce que vous faites. Voilà un peu l'importance d'un dispositif d'éveil. Et comme son nom l'indique, c'est la veille. Voilà, c'est-à-dire, ce sont des informations qui sont régulières, mm-hmm. qui sont journalières, qui sont voilà, mensuelles, trimestrielles, etc.
Alors, le dispositif dont vous parlez, hein, pour des cas économiques, hein, nous parlions du cas de la Côte d'Ivoire, c'est vous qui concevez le logiciel en fonction du domaine où on vous sollicite, c'est cela. Je dis, on veut analyser l'importance des exportations dans l'économie ivoirienne, ou bien nous abordions l'importance de l'industrialisation en Côte d'Ivoire. CAECOL, sur quel élément vous insistez pour que le dirigeant, le ministre de l'Industrie, hein, pour faire un CAECOL justement, pourrait mettre l'accent?
Par exemple, ça c'est un axe stratégique. Tout à l'heure, je vais chercher les déterminants de cette industrialisation. Mm-hmm. Et puis après, je vais rentrer dans un autre secteur qui est celui qui met en relief tout ce qui est indicateur de performance, mm-hmm. c'est-à-dire quel est le niveau de l'industrialisation. Mm-hmm. Et pourquoi est-ce que notre industrialisation est bonne, ou alors pourquoi est-ce qu'elle a la traîne, et quelles sont les dispositions particulières qu'il faut prendre pour permettre, c'est-à-dire pour booster cette industrialisation. Mm-hmm. Voilà un peu l'intelligence économique et financière. Mais cela dépend des informations que vous avez. Voilà, il faut des informations sur place. Et dans le cadre du dispositif, toutes ces informations au préalable ont été interceptées. Voilà, au niveau de tous les ministères, par exemple. Mm-hmm. Quand je veux parler d'une industrialisation, mais je peux entrer dans le volet ministère de l'Industrie et en même temps ministère de l'Économie et des Finances. Et c'est ce que mon dispositif me demande. Et j'y entre et j'ai toutes les informations qui me permettent de développer mon axe stratégique, de mettre en relief pour ceux qui me demandent l'information, les déterminants de cet axe stratégique-là, mm-hmm. dans l'industrialisation, et puis en même temps, de mettre en relief tous les indicateurs de performance. Mm-hmm. Et je lui dirai à la minute que si notre industrialisation est bonne, ou bien si elle est à la traîne, c'est à cause de tel ou tel indicateur de performance.
Mm-hmm. Vous insistiez sur la diffusion de l'information que vous collectez. Cette information, vous la mettez à la disposition de la structure qui vous l'a commandée, ou bien elle est rendue publique?
Des informations blanches et des informations grises. Ce qu'on fait en matière d'intelligence économique, soit vous vous développez en vase clos, c'est-à-dire que vous avez des informations qui intéressent peut-être un groupe de personnes, ou alors vous mettez ces informations sur le net. Je prends le cas d'un pays, par exemple. Tout ce qui est taux de croissance, tout ce qui est indicateur de performance qui concerne la dette, etc., ce sont des informations blanches. C'est là on ne doit pas le cacher. Mm-hmm. Ça doit être sur le net.
Donc, vous-même, une manière d'attirer aussi des potentiels investisseurs pour dire ce pays, il est intéressant.
Voilà. C'est pour des prises de décision. Mm-hmm. Donc, il faut les rendre publiques. Et il y a des informations grises. Celles-là sont des informations qui ont une portée limitée, mais qu'on peut vous demander, mais que vous mettrez à la disposition de ceux qui vous ont demandé ces informations, mm-hmm. d'une manière limitée. Et donc, le dispositif que vous créez, mais vous le mettez sur le net, mm-hmm. pour que tout le monde, pas seulement vous, mais tous ceux qui sont vos partenaires, mm-hmm. pour qu'ils sachent exactement ce que vous faites. Vous pouvez être une entreprise. Tout ce que vous faites comme activité, logiquement, devait être à la portée de vos partenaires. Bien entendu, il y a des activités qu'il faut surveiller, hein, qu'il faut surveiller. Les activités immatérielles, par exemple. Si vous êtes dans le domaine de la recherche, de la technique et de la technologie, il y a des aspects de cette recherche-là que vous ne devez pas mettre à la disposition de tout le monde. Mais c'est tout ça qui fait l'intelligence économique et financière. Mais les autres activités qui sont blanches, que les autres doivent connaître pour vous connaître davantage, mais il faut les mettre sur le net. Donc votre dispositif, il est fait pour être sur le net.
Il est fait pour être sur le net. Mais comment protéger justement ces informations-là? Surtout celles grises ou noires, comme vous avez dit, qui sont réservées. Voilà, comment les protéger?
Ah oui, ce sont des dispositions d'autres techniques qu'on prend pour pouvoir les protéger. De toute façon, elles sont là, mais elles ne sont pas à la portée de tout le monde. Elles sont seulement à la portée d'une catégorie de personnes.
Alors pour terminer, que gagne une entreprise, un pays, à avoir ce type d'expert que vous êtes, à avoir les conseils d'un expert en intelligence économique, justement pour son développement?
La gestion optimale de tous les secteurs macroéconomiques, si c'est un pays. La gestion optimale de toutes les activités concernant une entreprise, par exemple. Et la gestion optimale de toute autre forme d'activité qui pourrait permettre à une structure, qu'elle soit une entreprise, qu'elle soit une structure multilatérale, qu'elle soit un gouvernement ou un pays. Et l'intelligence économique et financière vous permet d'atteindre tous vos objectifs en matière de gestion optimale. De tout ce que vous recherchez.
Voilà, mes auditeurs, l'intelligence économique, hein, un aspect important en sciences économiques. Hein, donc, un expert en cette matière d'intelligence économique, voilà, nécessaire à la prise de décision, surtout stratégique. On a décidé de mieux comprendre un peu cette science avec l'expert M. Nozon que nous recevions dans le cadre de cet espace. Il est notre expert pour expliquer plusieurs sujets que nous vous proposons chaque semaine. M. Nozon, merci. Merci infiniment encore pour ces informations que vous nous avez données. L'intelligence économique, c'était notre sujet du jour. On se retrouve avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine. Au revoir.
Tendance de la bourse.
En 2023, la Bourse régionale des valeurs mobilières envisage de mettre en œuvre plusieurs projets pour accroître le positionnement de cette bourse sous-régionale, et cela au niveau mondial. Qu'est-ce qui est prévu en cette année? Une idée avec Edo Kossi Amenouvé, directeur général de la BRVM.
Alors, ce qu'on a pu noter des premiers jours de l'année, c'est qu'il y a un genre de détente macroéconomique qui est favorable à une gestion rapide de la situation inflationniste, mais également à un retour rapide à une croissance à la hauteur de nos attentes pour 2023. Il y a de bonnes nouvelles sur les marchés, surtout dans le domaine de la fintech, hein, et malheureusement, on n'a pas beaucoup d'entreprises fintech. C'est quelque chose que je déplore tellement dans notre région. On a un retard trop important sur la question de la finance technologique. Alors, comment on doit prendre le sujet en main? Est-ce que la bourse n'accélérerait pas les réflexions pour créer un compartiment ou un marché susceptible de donner l'opportunité à ces fintechs-là de lever des ressources et de se développer? C'est quelque chose qui me préoccupe de plus en plus et qui va probablement nous occuper, les équipes techniques et moi-même de la BRVM, pour que nous puissions regarder ce qui est faisable. On note une évolution favorable, en tout cas des marchés boursiers en début d'année. Maintenant, sur notre continent, est-ce qu'on s'attend à une relance des IPO, un développement des investisseurs locaux? Est-ce qu'on s'attend à un renforcement de l'intégration des bourses? Ce sont nos préoccupations, ce sont les sujets qui retiennent notre attention et qui évidemment s'inscrivent dans les actions que la BRVM envisage de mener en 2023 pour dynamiser davantage notre marché. Nous avons catégorisé ces actions en d'abord regardant les actions relatives au développement de l'offre des titres, parce que c'est clé pour nous, il nous faut plus d'entreprises. Il nous faut développer l'offre, il nous faut plus d'IPO sur le marché des actions. Et on a bon espoir que l'opération Orange va être un stimulus pour ce type d'admission à la BRVM au cours des prochaines années. Mais nous allons particulièrement concentrer nos efforts sur l'admission des PME. Pour nous, c'est à la fois un défi, mais également une conviction forte que le renouvellement, l'élargissement de la cote de la BRVM, tel que nous le souhaitons, passera forcément par l'accès que nous donnerons aux PME, aux entreprises à fort potentiel de croissance qui se développent dans nos économies et qui vont transformer nos économies au cours des prochaines années. Donc nous resterons très attentifs à cette question et nous y consacrerons beaucoup d'efforts. Mais je disais tout à l'heure que nous avons aussi tiré des enseignements du programme Elite sur les besoins des PME. Et on a compris que pour certaines, le besoin immédiat, c'est l'accès au marché obligataire. C'est de pouvoir s'endetter. Doit-on le leur refuser ? Doit-on le leur permettre ? Vous savez, en matière de marché de capitaux, il y a toujours un début qui aboutit à une fin. La fin peut ne pas être le début. La fin, c'est l'admission à la cote. Le début peut être l'accès à un marché obligataire. C'est pour ça que nous travaillerons sur les deux instruments majeurs qui ont fait leur preuve dans le monde, les basket bonds et les mini bonds, pour pouvoir permettre aux PME d'accéder à notre marché. Au-delà de l'offre, il y a la demande aussi des titres. C'est vrai qu'on a eu avec le succès d'Orange, le succès de certains emprunts obligataires, on a eu le sentiment qu'il y a une liquidité abondante et que les gens sont prêts à souscrire aux titres émis sur le marché boursier. Mais il y a des changements réglementaires qu'on doit anticiper. Changements réglementaires qui vont affecter les souscripteurs traditionnels que sont les banques. Et ça, on commence par ressentir ça dans le taux de souscription aux emprunts obligataires les plus récents qui ont été émis. Mais pour compenser ces changements et ces contraintes réglementaires, il faut faire de nouvelles réformes au niveau de la pension, au niveau des assurances, pour développer davantage leur investissement sur les marchés de capitaux. La BRVM évoluant, nous allons aussi favoriser la création de nouveaux marchés. Parce qu'une bourse doit rester dynamique. On ne peut pas rester uniquement avec les mêmes compartiments, les mêmes marchés. Nous pensons fortement au marché des produits dérivés. Nous pensons fortement à la bourse des matières premières agricoles. Des projets que nous avons déjà démarrés, sur lesquels nous travaillons. Nous travaillerons également à promouvoir des véhicules financiers, des véhicules nouveaux qui répondent à des besoins nouveaux, particulièrement dans le domaine de la finance durable. Et c'est tout le but du partenariat que nous avons noué avec la Bourse de Luxembourg. BRVM Academy reste au cœur de notre stratégie de renforcement des capacités de développement, de professionnalisation des acteurs du marché. Et nous allons donc mettre en œuvre cela cette année.
Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.